Chapitre 9. L'éducation morale et religieuse au collège. Pour donner une idée de l'éducation morale qu'on reçoit dans un collège catholique, il suffit de dire que d'un bout à l'autre de l'année, l'élève s'y trouve environné d'une atmosphère où l'on ne respire que le paganisme. C'est chez les païens qu'on allait chercher presque exclusivement les modèles d'éloquence que nous apprenions par cœur. Il en était de même des modèles de sagesse, d'honneur, de chasteté, de patriotisme que l'on offrait à notre admiration. C'était presque uniquement chez les peuples idolâtres qu'on allait les chercher. Notre esprit était sans cesse occupé à admirer les chefs-d'œuvre que le paganisme nous a laissés. Virgile, Horace, Cicéron, Socrate, Homère, Tacite, Lycurgue, César, Xénophon, Démosthène, Alexandre, Lucrèce, Régulus, Brutus, Jupiter, Vénus, Mars, Minerve, Diane, etc. se pressaient tour à tour et souvent à la fois devant notre pensée pour l'occuper, s'en emparer et la dominer. Il est vrai que l'Église romaine nous présentait aussi comme contrepoids et pour nous attirer à elle ses fables, ses doctrines et ses préceptes. Mais tout cela nous semblait si visiblement emprunté au paganisme et nous paraissait si nu, si froid, si dépouillé de poésie et de vérité, que si le paganisme ancien ne restait pas absolument le maître, il conservait au moins une large place dans les intelligences que le romanisme voulait lui ôter. Pour nous faire aimer l'Église de Rome, nos supérieurs comptaient sur les œuvres de Chateaubriand. Le génie du christianisme était le livre des livres qui devait dissiper tous nos doutes et nous attacher à la religion du pape. Mais cet auteur, souvent remarquable par la beauté de son style, détruisait par la faiblesse de sa logique le christianisme qu'il voulait édifier. Au reste, il nous était facile de voir que cet auteur n'était pas sincère et qu'il ne croyait pas lui-même ce qu'il nous disait. Nos supérieurs, par exemple, nous avaient persuadé que les scapulaires, les médailles, l'eau bénite nous seraient d'un grand secours pour combattre les tentations les plus dangereuses comme pour éviter les malheurs les plus communs de la vie. Nous avions tous, par conséquent, pendu au cou des scapulaires et des médailles que nous gardions avec le plus grand respect, que nous baisions même matin et soir avec l'affection la plus sincère. Quel ne fut pas notre désappointement lorsque nous vîmes dans nos auteurs grecs et latins que tous ces scapulaires et toutes ces médailles n'étaient qu'un reste du paganisme et que les adorateurs de Jupiter, de Vénus, de Diane se croyaient comme nous à l'abri de tous les maux quand ils les portaient en l'honneur de leur divinité. Plus nous avancions dans l'étude de l'Antiquité païenne, plus nous étions portés à croire que cette religion catholique qu'on nous disait née au pied du calvaire n'était qu'une pâle et maladroite imitation du paganisme. Par exemple, ce pape de Rome, qu'on nous présentait comme le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ, ne ressemblait-il pas exactement au pontifex Maximus de la grande république idolâtre de l'ancienne Rome? Notre pape n'avait-il pas conservé non seulement le nom, mais tous les attributs, le faste, l'orgueil et même les habits du grand prêtre des idoles? Le culte des saints n'était-il pas absolument le même culte que celui des demi-dieux des temps passés? Notre purgatoire ne se trouvait-il pas, presque mot pour mot, décrit par Virgile? Nos prières à la Vierge et aux saints n'étaient-elles pas répétées par les idolâtres prosternés au pied des images et des statues de leurs dieux, absolument dans les mêmes termes dont nous nous servions devant les statues et les images dont nos temples sont ornés? Notre eau bénite n'était-elle pas aussi employée par les idolâtres et pour le même usage que parmi nous? Nous savions par l'histoire l'année où le magnifique temple consacré à tous les dieux avait été, sous le nom de Panthéon, bâti à Rome. Nous connaissions les noms des sculpteurs qui en avaient façonné les statues. Et aucune parole ne peut dire la honte que nous éprouvions en apprenant que, de nos jours encore, sous les yeux et avec le consentement du pape, les catholiques romains se prosternent dans le même temple, au pied des mêmes idoles, pour en obtenir les mêmes faveurs que les peuples païens. Lorsque nous nous faisions les uns aux autres la question « Quelle différence y a-t-il entre la religion de Rome païenne et de la Rome d'aujourd'hui ?» Plus d'un écolier répondait hardiment « Le seul changement est dans les mots. Les temples des idoles sont restés là. Les idoles ont gardé leurs antiques places. Aujourd'hui comme autrefois, l'encens brûle en leur honneur. Les peuples ont encore le front dans la poussière à leurs pieds pour leur rendre les mêmes hommages, en implorer les mêmes bienfaits. Seulement, au lieu d'appeler telle statue Jupiter, on l'appelle Saint-Pierre. Au lieu d'appeler telle autre Minerve, Diane, on l'appelle Marie, Lucie, Agathe, etc. c'est toujours la vieille idolâtrie parée d'un nom chrétien. Je voulais être honnête et sincère catholique romain. Ces discours, ces pensées me désolaient souverainement, d'autant plus que je ne trouvais rien dans ma raison qui pût en diminuer la force. Malheureusement pour moi, plusieurs des livres que nos supérieurs nous mettaient dans les mains pour former et soutenir notre piété et affermir notre foi dans les dogmes de l'Église romaine avaient, avec les histoires que j'avais lues dans la vie des dieux païens, une ressemblance qui vraiment m'épouvantait. Souvent, les miracles que l'on attribuait à la Sainte Vierge ne me semblaient qu'une reproduction des trucs et des tours de passe-passe dont les prêtres de Jupiter, de Vénus, de Minerve se servaient pour arriver à leur fin et duper les adorateurs de ces fausses divinités. Quelques-uns de ces miracles de la Sainte Vierge et des saints égalaient, s'ils ne les surpassaient pas, en absurdité et en immoralité, tout ce que la mythologie nous rapporte des plus hideux à l'égard des divinités païennes. Je pourrais citer des centaines de ces miracles qui désolaient ma foi et me faisaient rougir en secret par les rapprochements que j'étais forcé de faire en comparant la Rome ancienne et la Rome moderne dans leurs cultes respectifs. Dans les dernières années de mes études, mes supérieurs me confiaient souvent la charge de bibliothécaire. Or, un jour de congé, pendant que tous les élèves étaient en promenade, je m'enfermais dans la bibliothèque afin d'en examiner tous les livres. Je ne fus pas peu surpris de voir que les ouvrages les plus propres à nous instruire étaient du nombre des livres défendus sur les tablettes de l'index. J'éprouvais une honte inexprimable lorsque je vis qu'on ne mettait entre nos mains que les ouvrages les plus médiocres, qu'on ne nous donnait à lire que les auteurs du troisième rang, si je puis m'exprimer ainsi, et dont tout le mérite était de flatter les papes et de cacher ou d'excuser leurs crimes. Déjà, plusieurs élèves, plus avancés que moi, m'avaient fait cette observation. Mais je ne les avais pas crus. Mon amour-propre me faisait espérer que j'étais aussi instruit qu'il était possible de l'être à mon âge. J'avais jusqu'alors repoussé l'idée que j'étais avec le reste des élèves victime d'un système incroyable d'abrutissement moral et intellectuel. Parmi les livres que je trouvais à l'index, je rencontrais une superbe Bible. Elle me parut de la même édition que celle dont la lecture m'avait fait passer des heures si délicieuses lorsque j'étais auprès de ma mère. Je la saisis avec la joie d'un avare qui retrouve son trésor perdu depuis longtemps. Je la portai à mes lèvres et la baisai avec respect. Je la pressai sur mon cœur comme on presse un ami dont on a été longtemps séparé. Cette Bible me rappelait les heures les plus délicieuses de ma vie. J'en lus les divines pages jusqu'au retour des écoliers. Le lendemain, M. Leprobon, notre directeur, m'appela dans sa chambre après la récréation et me dit « Tu as l'air bien préoccupé et bien triste aujourd'hui. J'ai observé que tu es resté seul pendant que tous tes condisciples s'amusaient si bien. As-tu quelque peine? Es-tu malade ?» Je ne saurais assez dire combien j'aimais et respectais cet homme vénérable. Il était mon ami et mon bienfaiteur tout à la fois. Depuis 4 ans, c'est lui, avec M. Moïse Brassard, qui payait ma pension au collège, car il était survenu entre l'oncle Dionne et moi un malentendu à la suite duquel il avait cessé de me soutenir. En lisant la Bible la veille, j'avais désobéi à mon bienfaiteur, M. Leprobon, car lorsqu'il m'avait donné la charge de la bibliothèque, il m'avait fait promettre de ne pas lire les livres qui étaient à l'index. Il m'en coûtait beaucoup de le contrister en lui avouant que j'avais manqué à ma parole. Mais il m'en coûtait bien plus encore de le tromper en lui cachant la vérité. Je lui répondis donc « Vous avez raison de penser que je suis triste et inquiet depuis quelque temps. Je vous l'avoue, il y a une chose qui m'embarrasse singulièrement dans les règles par lesquelles vous nous gouvernez. Je n'ai jamais voulu vous en parler, mais puisque vous voulez savoir le sujet de ma tristesse, je vais vous le dire. Vous avez mis dans nos mains, non seulement pour les lire, mais pour les apprendre par cœur, des livres dont une partie, vous le savez, est inspirée par l'enfer. Et vous nous défendez de lire le seul livre écrit sous la dictée de l'esprit de lumière et de sainteté. Cette conduite de votre part et de la part de tous les supérieurs de collège me trouble et me scandalise. Vous le dirai-je, cette peur que vous avez de la Bible ébranle ma foi et me fait craindre que nous ne fassions fausse route dans notre Église. » M. Leprobon me répondit « Voilà plus de 20 ans que je dirige ce collège et je n'ai jamais entendu de la bouche de qu'un élève des remarques et des plaintes comme tu m'en fais aujourd'hui. Ne crains-tu pas d'être la victime d'une illusion du démon en occupant ainsi ton esprit d'une question si étrange et si nouvelle pour un écolier qui ne doit chercher qu'à obéir à ses supérieurs ?»« Il se peut, lui répondis-je, que je sois le premier qui vous tienne ce langage, car il est probable que je suis le seul élève de ce collège qui ait lu la Sainte Bible dans sa jeunesse. Je vous l'ai déjà dit, il y avait dans la maison de mon père une Bible qui disparut quelques jours après sa mort sans que j'aie jamais pu savoir ce qu'elle était devenue. Mais je puis vous assurer que la lecture de ce livre admirable m'a fait un bien qui dure encore. C'est donc parce que je sais, par ma propre expérience, qu'il n'y a aucun livre au monde aussi beau et aussi bon à lire que je me trouve profondément affligé et même scandalisé par la peur que vous en avez. Je vous l'avoue franchement, j'ai passé l'après-midi à lire la Bible. J'y ai trouvé des choses qui ont fait plus de bien à mon âme que tout ce que vous m'avez fait lire depuis 6 ans. Et si je suis triste aujourd'hui, c'est parce que vous m'approuvez lorsque je lis la parole du démon et que vous me condamnez lorsque je lis la parole de Dieu. Mon supérieur me dit, « Puisque tu as lu la Bible, tu dois savoir qu'il y a dans ce livre des choses d'une nature si délicate qu'il ne convient pas à un jeune homme, encore moins à une jeune fille, de les lire. » « Je vous comprends, lui répondis-je, mais ces choses d'une nature si délicate dont vous ne voulez pas que le bon Dieu nous instruise, vous savez bien que le démon nous en parle nuit et jour. Or, quand le diable attire notre pensée vers une chose mauvaise et criminelle, c'est toujours pour nous la faire aimer et nous perdre. Tandis que, quand le Dieu de toute pureté nous parle sur des choses mauvaises, mais qu'il est à peu près impossible à l'homme de ne pas connaître, c'est toujours pour nous les faire détester et nous donner la force de les fuir. Eh bien, puisque vous ne pouvez pas empêcher l'esprit mauvais de nous parler afin de nous séduire de ces choses si délicates et si dangereuses, comment osez-vous défendre à Dieu de nous parler de ces mêmes choses dans le but de nous mettre en garde contre leur séduction? D'ailleurs, quand mon Dieu veut me parler lui-même sur une question quelconque, où prenez-vous le droit d'empêcher sa parole, toujours sainte, de pénétrer jusqu'à moi? Bien que l'intelligence de M. Leproon fût aussi enveloppée que possible par les ténèbres de l'Église romaine, son cœur était néanmoins resté honnête et droit. Et pendant que je le respectais et l'aimais comme un père tout en différant d'opinion avec lui, il m'aimait aussi comme si j'avais été son propre enfant. Ma réponse tomba sur lui comme un coup de foudre. Il pâlit et je vis des larmes prêtes à couler de ses yeux. Il poussa un profond soupir et, me regardant pendant quelque temps d'un air préoccupé, il me dit à la fin. « Mon cher Shiniki, ta réponse et tes raisons sont d'une force qui m'épouvante. Si je n'avais que mes propres idées personnelles pour te réfuter, je ne saurais pas trop comment m'y prendre. Mais j'ai quelque chose de mieux que mes faibles pensées. J'ai la pensée de l'Église et de notre Saint-Père le Pape. Ils ne veulent pas que nous mettions la Bible entre les mains de nos élèves. Cela doit suffire pour mettre fin à ton trouble. Obéir à ses supérieurs légitimes, en tout et partout, voilà la règle qu'un écolier chrétien comme toi doit toujours suivre. Et si tu as manqué hier, j'espère que ce sera la dernière fois que l'enfant que j'aime plus que moi-même me causera cette peine. » En prononçant ces paroles, il se jeta dans mes bras, me pressa sur son cœur et m'arrosa de ses larmes, auxquelles se mêlèrent aussi les miennes. Oui, mon Dieu, je pleurai abondamment. Mais vous le savez, Seigneur, si le regret d'avoir contristé mon bienfaiteur et mon père m'arrachait ses larmes, en ce moment, je pleurais bien plus encore en pensant qu'il ne me serait plus permis de lire votre sainte parole. Si donc on me demande quelle éducation morale et religieuse nous recevions au collège, je demanderai à mon tour, quelle espèce d'éducation peut-on recevoir dans une maison où l'on étudie durant 7 ans sans pouvoir obtenir la permission de lire l'évangile de Jésus-Christ? Les dieux du paganisme nous parlaient tous les jours par leurs apôtres et leurs disciples. Homère, Virgile, Pindare, Horace, et le dieu des chrétiens n'avait pas le droit de nous dire un seul mot. Notre religion ne pouvait donc être qu'un paganisme déguisé sous un nom chrétien.